Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Route Inconnue, l'émission de Radio Rancière dédiée entièrement à la poésie vivante, celle qui s'écrit, qui se publie, qui se lit aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons fêter 40 bougies. Prenez votre souffle, les 40 bougies de la revue Décharge, qui est notre marraine, on va dire, notre partenaire, la revue Décharge qui est devenue au fil des années une revue mythique. Probablement une des revues les plus importantes dans le domaine de la poésie francophone. Et j'ai décidé, pour fêter ces 40 ans de la revue des charges, eh bien de poser des questions à son directeur de publication et son créateur Jacques Morin, mais aussi à Claude Verset, à Louis Dubos et à Georges Catalot, qui figurent parmi ses éminents collaborateurs. Eh bien, je vais commencer avec vous, Jacques Mau. Je ne pouvais pas faire autrement, évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Bah, tout d'abord, cette revue des charges, vous l'avez créée, donc, si mes calculs sont bons, en 1981. Tiens, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir, tiens.
Oui, tout à fait. Enfin, pour être tout à fait exact, elle a été donc créée en 1981, mais c'était encore sous Giscard d'Estaing.
C'était encore Giscard d'Estaing, c'était avant le mois de mai, alors, avant le
Voilà,
10 mai.
exactement.
Ouais.
Donc, c'était les années tristes de la fin du septennat de Giscard d'Estaing, avant l'arrivée de Mitterrand au
Ouais.
pouvoir.
Alors, cette revue, vous l'avez créée pourquoi? Il y avait déjà eu une revue précédente, Le Crayon Noir, et
Oui.
pourquoi être passé à Décharge?
D'une façon un peu presque normale, dans le sens où la revue Le Crayon Noir était arrivée un peu en fin de course. C'était une revue collective
Ouais.
libertaire, qui était basée en Ardèche à la fin. Et donc, mes camarades commençaient un peu à en avoir marre de faire une revue depuis 8 ans. Elle a été créée en 73. Et donc, j'avais relancé une autre revue qui s'appelait Désespoir précisément pendant un an. C'était une grande feuille sur 13 numéros. Et puis, bon, je voyais bien que j'étais le seul à être encore ardent à vouloir continuer. Donc, j'ai compris que fallait que je me mette à partir à nouveau sur une autre revue, en 81, donc, que j'ai appelée Décharge.
Ouais. Alors, ceux qui connaissent la revue des charges aujourd'hui apprécient aussi l'objet. C'est une très belle revue avec de superbes couvertures à chaque fois présentant le travail d'un plasticien. Il n'en a pas toujours été ainsi, évidemment. On commence toujours petit quand on fait une revue de poésie. C'était plutôt du papier kraft, c'est ça?
Voilà.
À quoi elle
Alors, le
ressemblait?
papier kraft, c'était pour la couverture, hein. C'était un peu la marque de fabrication. Durant 100 numéros, donc jusqu'en 1998, la revue donc a été enfin, fabriquée d'une façon assez artisanale, puisque ça a été Renéo, ça a été ensuite Offset, ça a été ensuite photocopie, et puis à la fin, je suis passé directement à l'imprimerie à partir du numéro 100. Mais les 100 premiers numéros, donc pratiquement les 18 premières années, ça a été dans ce format-là, dans cette apparence avec donc une couverture kraft qui lui donnait une sorte de personnalité un peu underground comme ça pouvait se faire un peu plus à l'époque.
Ouais. Pourquoi le nom des charges, au fait?
Oh ben, le nom des charges, c'était un petit peu justement, je voulais à ce moment-là, à la création, trouver un titre un peu choc qui n'est pas du tout poétique a priori et qui donc se scandalise en hein, quelque sorte le lecteur. Donc voilà, ça a été un peu, enfin il y a différents sens au mot décharge, ce qui me plaisait bien également, cette polysémie. Donc, c'était un peu le résultat de ces recherches. J'ai trouvé que c'était un titre qui était assez court, assez bref, assez choc. Contrairement, par exemple, à la revue que j'avais créée après le Crayon Noir, Le Désespoir précisément, qui était assez long, assez lourd. Donc, je voulais quelque chose de différent.
Ouais. Alors, évidemment, chaque créateur de revue arrive avec ses idées sur ce que doit être une revue de poésie. Quelles étaient vos idées initiales?
Ben, moi, ma revue, enfin, côté formel, était important. Il fallait qu'il y ait à l'intérieur un certain nombre de choses, comme il y avait déjà dans le Crayon Noir d'ailleurs, à savoir une partie de création avec différents auteurs. L'important, c'est quand même l'ouverture un peu aux jeunes auteurs, mais également les auteurs plus importants, plus expérimentés, qu'on publiait évidemment très volontiers, avec lesquels on s'entendait bien. Et puis une partie également critique. Aussi bien articles que surtout critiques de ce qui pouvait se publier à l'époque, et encore maintenant, ça n'a pas changé. Et donc une partie plastique qui s'est mise en place après le numéro 100, j'en ai pas parlé vraiment, mais à partir du numéro 100, à partir de l'année 98, je change complètement de braquet en quelque sorte, et la revue est imprimée par un imprimeur professionnel, évidemment, et pris en main par Louis Dubot, qui va devenir chroniqueur par la suite, et ses éditions du Dé Bleu, qui existaient encore à l'époque. Et donc, elle va être diffusée grâce à lui, enfin, sous son enseigne, jusqu'au numéro 144, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2009, puisque lui-même va arrêter ses éditions. Et donc, à partir de 2010, Descharges va reprendre un peu son autonomie, son indépendance, et va travailler par abonnement direct, en quittant évidemment Louis Dubot qui s'arrêtera. J'ai cherché un moment un éditeur pour remplacer, puis finalement, ça n'a pas eu lieu.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un cousinage entre Descharges et un cousinage éditorial, hein, entre Descharges et le Dé Bleu?
Ah oui, tout à fait. Là, il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient dans le même sens, dans les poètes, dans la poésie que l'on prenait l'un comme l'autre. Et puis parmi les auteurs, bon, Claude Verset, qui a été un petit peu celui qui, évidemment, nous a mis un peu en cheville et a poussé un peu à ce partenariat entre les éditions Le Dé Bleu et la revue Descharges, était un des auteurs. François de Cornière, qui est maintenant indispensable dans la revue, était aussi un des auteurs. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs communs entre les éditions et la revue. Et on va même dire que souvent, Louis cherchait dans la revue, mais pas que la mienne, mais dans les revues en général, des nouveaux auteurs. Et il pouvait trouver évidemment des gens intéressants dans ce qui était publié dans la revue.
Alors aujourd'hui, ce qui fait, je pense, la singularité de la revue Descharges, c'est la diversité de ses contributeurs, donc entre Louis Dubot, Georges Catalot, Mathias Lair, Yves Jacquebon, etc. Eh bien, ce sont aussi des courants différents de la poésie qui s'expriment. C'est un peu ce qui fait la singularité aujourd'hui, la richesse de Descharges, non?
Oui. Alors c'est vrai que là, avant, quand tu cites les noms comme Catalot ou Mathias Lair, etc., faut dire que depuis un moment, moi, j'avais essayé de recruter des chroniqueurs un peu dans la revue. C'est aussi bon un autre aspect de ce que pouvait être une revue. Des gens comme ça qui étaient habitués à faire des revues ou à parler de revues et qui donnaient un petit peu leurs sentiments. Et donc, chacun un petit peu a un peu son parcours depuis maintenant des années, voire les 40 ans dont tu parles par rapport à la revue. Et donc, ce sont des gens très expérimentés qui ont une vue très claire de ce qui se passe en poésie et de ce qui, surtout, arrive dans la poésie moderne de 2021, puisque là, maintenant, on en est à cette date-là.
Ouais. Et vous, quand vous jetez un coup d'œil en arrière, vous êtes surpris par la réussite de Descharges?
Disons que c'est vrai qu'il y a un certain succès. Alors, le fait d'avoir changé de braquet, comme je l'expliquais tout à l'heure, a fait que la revue, d'un seul coup, bon, on m'a beaucoup reproché à ce moment-là, au numéro 100, de changer de format, de changer de forme, de quitter le craft, de passer un peu à la couverture, dos carré, avec couleur, etc. Et il y a pas mal d'abonnés qui m'en ont voulu. Et puis petit à petit, une fois ce cap dépassé, finalement, le résultat étant quand même bien supérieur au point de vue qualité de tout, graphique et du papier, etc. Et ça a donné que les gens ont trouvé encore plus d'intérêt finalement à avoir un objet un peu plus joli, un peu plus agréable à palper que ce qu'ils étaient auparavant. Et donc le pari a été réussi, et ce qui fait que le tirage a doublé d'ailleurs à ce moment-là, donc la revue est repartie de plus belle. C'est ça qui conditionne un peu sa longévité, ouais. C'est-à-dire que si la revue n'avait pas eu autant d'abonnés à ce moment-là, puis par la suite et encore aujourd'hui, je me serais arrêté.
Ouais. Alors, une revue, c'est évidemment un vivier de nouvelles plumes. C'est aussi parfois un lieu d'échange et de combat, non?
Ah ben, la revue, il y a eu beaucoup comme ça de clash, évidemment, par rapport à des points de vue, à des malentendus quelquefois entre auteurs. Il y en a qui nous ont quittés vertement, etc. Bon, mais c'est un peu aussi un lieu justement de rencontre et de discussion qui me semble fort intéressant. Alors c'est vrai que avec les points de vue qu'on peut avoir entre les chroniqueurs dont je parlais, Claude Verset qui est évidemment très important de la revue, qui donne son point de vue sans barguigner, et moi-même on a quelquefois on a eu des ennemis d'ailleurs, dans l'histoire un peu de la revue il y a eu comme quelques épisodes un peu comme cela, c'est un peu le propre d'une revue, d'être le lieu de discussion, de rencontre et quelquefois d'engueulade.
Ouais. Ma dernière question, finalement, le fait que la revue des charges soit animée par des poètes aussi, c'est important.
Je vois pas un administrateur un peu, je dirais, sans parti pris, prendre la direction d'une revue. Bon, évidemment qu'il faut que les revuistes aient envie aussi de publier. C'était un peu, au tout départ, pourquoi j'ai créé une revue, pourquoi il y a eu le crayon noir, c'était un peu pour se publier soi-même. Mais en réalité, très rapidement, on se rend compte que tous ceux qui sont intéressés par la poésie, surtout quand il y avait le compte d'auteur qui était très important, ils ont envie de publier, donc on s'efface plus ou moins pour laisser la place à tous ceux qui ont autant envie d'être publiés que soi-même.
Et voici à présent quelques éditos un peu rigolos ou pas trop sur 100 numéros. Il s'agit d'une collecte d'éditos signée Jacques Morin et paru en recueil dans la maison d'édition Rhubarbe. Voici, tiens, l'édito du numéro 44 de Décharge. C'était en mars 1988. Revuisté, c'est forcément mélanger intimement la vie et la poésie. La revue devient respiration. On n'envisage pas plus de vivre sans revue qu'on rechercherait l'asphyxie. La poésie est si présente, si quotidienne, si permanente, qu'elle se mue élément naturel, vital. N'est pas question de vivre sans. La poésie indispensable. Je conçois cependant qu'on puisse l'ignorer absolument. N'est-ce pas le cas d'une majorité écrasante ? Cette singularité, cet anachronisme, cette extravagance, ce ridicule, ce mauvais goût, c'est le tribut à payer à l'opinion générale. À moins que la poésie ne soit tout simplement un luxe, et je le dis dans la plus rudimentaire des revues. Revue, sacerdoce également. Mais comment consacrer autant de temps à la poésie, cette futilité, dans notre siècle matérialiste ? Je n'ai pour me défendre que ma force de conviction et la certitude que ça ne sert à presque rien. Je lis, j'écris, je vis. C'est presque trois fois la même chose, une définition serrée d'un moi littéraire ou poétique. Je vis, j'écris, je lis. Les termes sont réversibles et se complètent. Écrire, lire, vivre, la revue en magazine et fait part. La poésie, c'est la vie, privilège et fardeau. Très bel édito, hein, signé Jacques Morin, dans le numéro 44 de Décharge, en date de mars 1988. On écoute un peu de musique avant de retrouver l'ami Louis Dubos. Ben oui, Louis Dubos, poète, éditeur, qui fut donc un temps, si j'ose dire, un partenaire officiel de la revue Décharge. Thank you. Nous venons de parler avec Jacques Morin du Des Bleus, qui fut partenaire aussi de la revue des charges, et ça tombe formidablement bien parce que à l'autre bout du fil, eh bien, nous avons notre ami Louis Dubeau, qui intervient régulièrement sur la route inconnue, mais qui est devenu lui aussi chroniqueur régulièrement dans la revue des charges. Louis, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour les 40 ans de la revue. C'est une revue que vous avez toujours eue en ligne de mire.
Bien sûr, parce que Morin, je l'ai rencontré, évidemment pas physiquement, mais par courrier. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas tous ces bazars-là. Donc c'est par courrier qu'on s'est rencontrés, et je me souviens que c'était 1975 à peu près, et c'était par le crayon noir. Donc c'est par le crayon noir qu'il publiait avec son copain Cossec, en Ardèche, si je me souviens bien. Et puis ensuite, j'ai suivi tout ce qu'il faisait, parce que ça me plaisait bien ce qu'il publiait. Le Désespoir précisément, qui pour moi reste une publication majeure, quoi. Et enfin, évidemment, les charges que je possède depuis le numéro 1.
Ouais.
Donc, Jacques, qui est un peu plus jeune que moi, mais je le connais donc depuis presque 50 ans, tu vois.
Oui. Alors, je posais la question à Jacques, savoir s'il y avait une sorte de, finalement, cousinage éditorial entre les deux organes, si j'ose dire, le Des Bleus et des charges. C'est le cas. Il m'a dit oui, bien sûr.
Oui. Il y a sûrement un cousinage. En tout cas, il y a un compagnonnage certain qui date depuis cette époque où on s'est rencontrés, hein, de la mesure où je me retrouvais dans ça et ses revues, et que lui, de son côté, je lui ai publié un petit recueil au duplicateur à encre, qui s'appelait, si je me souviens bien, Miroir des nostalgies, ça devait être en 80.
Ouais.
Soit à peu près 5 ans après notre rencontre. Et puis plus tard, j'ai évidemment publié alors un très beau livre, un très beau poème, Le Des Bleus était devenu l'idée bleue, c'était en 2007, avec un titre extraordinaire qui, à mon avis, résume bien à la fois la poésie de Jacques et puis aussi son travail, Une fleur noire à la boutonnière. C'est la plus belle des légions d'honneur qu'on peut lui accrocher, quoi.
ce qui m'intéresserait aussi, c'est que tu me dises le rapport qu'un éditeur que tu as été entretient avec une revue. Pour lui, c'est un vivier, d'une certaine manière.
Ah oui, c'est important. Et pour un éditeur, c'est aussi un gisement de poète. Dans la mesure où la revue publie après un filtre,
ouais.
Tu vois, il y a des choix qui ont été faits. Donc moi, éditeur, je lisais les poètes publiés par Descharges, par exemple. Et lorsqu'un poète m'intéresse vraiment, je n'étais pas à lui demander un manuscrit. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai publié beaucoup des poètes de mon catalogue. Soit je les ai repérés dans Descharges, soit dans d'autres revues que je recevais également.
Oui. Alors, Jacques m'a dit aussi que la revue a changé de braquet à partir du moment où l'idée bleue est venue dans l'aventure. En quoi consistait finalement ton rôle à ce moment-là?
Mon rôle était celui d'un éditeur, à savoir que le Descharge, c'était comme une collection dont le directeur était entièrement responsable. Et je lui déléguais tout pouvoir.
Ouais.
Mon rôle à moi, c'était essentiellement un rôle de diffusion et de distribution. Ce qui fait, par exemple, que chaque numéro de la revue était confié au diffuseur-distributeur, comme mes autres livres, donc une présence en librairie. Et de mon côté, pour donner un coup de main à Jacques Morin et à la revue, j'inscrivais la revue dans ma formule AMAP, comme je disais, AMAP, de lecteur à souscription, c'est-à-dire que les lecteurs souscripteurs de mes éditions recevaient aussi la revue.
Ouais.
Ah, donc ça ouvrait la diffusion, si tu veux.
Ah bah oui, évidemment, là, oui. Présence en librairie, etc., c'est extrêmement rare, évidemment, pour une revue de...
Ah oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens autrement. Hein.
Ouais. Alors maintenant, je l'ai dit, tu es chroniqueur dans la revue. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle?
Mon rôle, c'est... D'ailleurs, d'ailleurs, je suis chroniqueur depuis un certain temps, parce que j'avais déjà une chronique du temps de la décharge préhistorique, si je puis dire,
oui.
ou la décharge mythique, lorsqu'elle était publiée au duplicateur à encre ou à l'offset, et puis sous couverture Kraft. J'avais déjà une chronique que j'avais interrompue parce que je pouvais pas non plus concilier à la fois mon boulot de prof de philo et de directeur d'une maison d'édition, et que j'ai repris après la cessation de la maison d'édition. Donc j'ai repris ça en 2010, oui, si je me souviens bien. Ben, mon rôle, c'est de fournir une chronique, et là aussi, Jacques me laisse une entière liberté, ce qui permet de parler de livres, d'auteurs, de poètes, éventuellement de thèmes qui me sont chers. Et de mon côté, je fais l'effort quand même de bichonner un petit peu le texte.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On retrouve le Dubo prosateur qu'on connaît dans les livres aussi, dans les chroniques. On prend un grand plaisir à te lire, oui.
Ben, je travaille un petit peu, je travaille. Hein. Deux pages de chronique, enfin deux pages à quatre hein, oui. chez moi, ça me demande quand même un certain temps.
Oui.
Hein. Et j'ai plaisir à le faire,
Hein. Oui. Et une dernière question, selon toi, la revue papier de poésie a encore de beaux jours devant elle?
Ben, je crois que, je sais pas si elle a de beaux jours, j'espère du moins.
Oui.
Mais moi, je suis très attaché au papier, moi.
Oui.
Je suis très attaché au papier parce que la lecture sur ordinateur, je lis des blogs, je lis des choses comme ça, c'est pas du tout la même chose que le papier. Le papier, on revient, on froisse, et puis il y a l'odeur, et puis il y a l'encre, et puis il y a tout ça. Bon, ça fait un petit peu mythologie passéiste, mais je tiens à revue papier. Mais je crois qu'il y a des animateurs de blogs ou de revues sur Internet qui sont passés à la revue papier.
Ouais.
Hein? Bon, le papier, à mon avis, il restera encore un bon moment, et tant mieux.
Eh bien, on croise les doigts. Et puis... Oui. On attend de te lire dans le prochain numéro de décharge, et puis ici même, évidemment, sur la route inconnue, ce qui me permet de te remercier une nouvelle fois d'avoir accepté
cette
contribution. Merci, merci beaucoup, Louis.
Au revoir,
merci. Et comme les talents de prosateur de Louis Dubo ne sont plus approuvés, je vous propose un texte extrait de Diogène ou la tête entre les genoux de Louis Dubo, publié à la maison d'édition La Mèche Lente. Diogène ou la tête entre les genoux est une suite de chroniques potagères et philosophiques, car Louis Dubo est les deux, à la fois philosophe et jardinier. Tenez, un texte sur la fève. La fève, voilà un légume, la plus sympathique des légumineuses, qui n'a pas d'ego. On le sème en février et il se laisse pousser en vous fichant la paix. Mais en mai, les pucerons font ce qui leur plaît et lui courent effrontément sur la gousse. Le purin de fougères aigles les calme à peine, en attendant que les coccinelles se parachutent pour le grand nettoyage du printemps. De la fève, abstiens-toi, aurait préconisé Pythagore. Voilà un bien curieux théorème de la part de l'inventeur du mot philosophie et du calcul de l'hypoténuse. Serait-ce à cause de la nature venteuse des fèves, mais alors pourquoi ne pas également proscrire l'échalote, l'oignon, le chou, le radis noir, la mogette et bien d'autres trublions encourageant la flatulence? Ou bien, à cause qu'elles ont la forme de testicules, aurait-il pressenti de manière empirique ce que nos médecins ont aujourd'hui démontré, que le favisme des mangeurs de fèves provoque un déficit de G6PD, glucose 6-phosphate déshydrogénase, engendrant parfois uniquement chez les mâles de graves poussées d'hémolyse. Toujours est-il, selon la chronique, qu'en contournant un champ de fèves pour éviter de le piétiner, Pythagore mourut en Sicile, égorgé par des poursuivants mal intentionnés. Le jardinier en reste quoi? Fort peu enclin au martyr pythagoricien. D'autant plus que lui revient à la mémoire la pratique d'un vieux médecin du bourg voisin dont la première question posée à l'épouse d'un agonisant était chaque fois la même « Est-ce qu'il pète ?» En cas de réponse affirmative, il diagnostiquait un zeste de souffle vital avec un sourire, rassurant d'emblée le moribond et sa famille. Voilà, c'était un extrait de Diogène ou la tête entre les genoux de Louis Dubeau, publié aux éditions La Mèche Lente. La répétition de Baptiste Trottignon. Nous avons à présent rendez-vous avec un des plus fidèles lieutenants de Jacques Morin, à la barre de la refus des charges depuis combien de temps déjà? Eh bien, je crois que Claude Verset va nous le dire sans barguigner.
Ah, ben écoute, je m'attendais à cette question, figure-toi. Alors, je suis entré en 1987 avec le numéro 37.
Numéro 37. Donc, ah oui, ça fait... oh là 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 là, ça fait...
Ah oui, 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 oh là 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 là, oui, ça doit faire 35
ça
ans,
fait,
quoi.
Ça
hein.
fait 35 ans de...
Oui, par là, quoi. Hein.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à décharge? C'est Jacques qui t'avait demandé de venir?
C'est Jacques. Jacques a toujours eu l'habitude de recruter d'anciens revuistes ou chroniqueurs. Et il m'a recruté quand j'ai arrêté ma propre publication qui s'appelait Alimentation Générale.
Oui.
Voilà. Et dans cette Alimentation Générale, j'avais fait une chronique sur décharge.
Ah,
voilà,
ouais.
Où je me rappelle très bien, je lui avais traité de revue frénétique.
Frénétique,
oui,
ça
veut dire quoi? Oui, à l'époque, c'était quand même plus noir, plus violent, plus exagéré. Enfin bon, ouais. On s'est bien calmé, enfin tout le monde s'est un peu calmé depuis.
qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de décharge? Qu'est-ce qui distinguait cette revue d'autres finalement? Est-ce qu'il y avait déjà une ligne éditoriale et quelle était-elle?
Oui, oui, il y avait une ligne, parce que justement, quand je l'appelais frénétique, oui. C'était la couleur, hein, ouais. C'était la couleur. En plus, sous la couverture Kraft, avec des impressions. Enfin bon, il y avait un côté, oui, un peu violent, un peu, on va faire bouger les choses. Oui, il y avait ça.
Il y avait un côté fanzine dans des charges, ouais. Ouais.
Oui, et puis il y avait aussi la lutte contre le compte d'auteur aussi qui m'intéressait bien et à la pointe de ce combat il y avait Jacques.
Ouais. Alors rapidement, quel a été ton rôle au sein de l'équipe de rédaction?
Ben écoute, il m'a d'abord confié une page, hein, que j'ai appelée tout de suite les ruminations. Et puis peu à peu, ben ma foi, j'ai augmenté, j'en ai passé à deux, à trois, j'ai apporté des poètes, et puis bon, la relation avec Jacques s'est bien passée. À un moment donné, il m'a repassé la collection Polder, hein, il m'a dit, ben tiens, tu vas faire. Et puis quand on est arrivé au site qui était tenu jusqu'alors, mais de façon très distante par Alain Quévès, eh bien il m'a dit, ben tu prends aussi le... Tu prends aussi le site. Voilà. Alors, peu à peu, c'est vrai que mon domaine a augmenté. Voilà. Ouais. Voilà.
Alors, le site est devenu très important. Il est très visité. Et puis, alors, il est remis à jour régulièrement. Hein. C'est un boulot, c'est une revue bis. Hein.
Ah, ben, écoute, oui je travaille tous les matins dessus. Hein. Bon, maintenant que je suis à la retraite, tu sais que j'ai beaucoup tourné pour défendre la poésie. Ouais. Ben maintenant, je suis à la maison et je continue de la défendre dans le même temps. Hein. J'y passe, oui, tous les matins. Voilà, mais c'est pas une corvée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La découverte des voies nouvelles, des livres nouveaux. Ça me passionne. Et peut-être que par là, je complète Jacques, qui, lui, aime bien continuer les filiations, tu vois. Alors, bon, je crois qu'on se complète sur bien des plans. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, bah, c'est une équipe rédactionnelle digne d'un journal. Hein, il y a à peu près une dizaine de personnes qui collaborent régulièrement à des charges. Et qu'est-ce qui explique, finalement, alors déjà la longévité et la réussite de Décharge qui aujourd'hui vraisemblablement peut-être celle qui fédère le plus de lecteurs passionnés en France.
Oui,
en tout cas.
Oui. Bah écoute, je pense qu'on est une des rares revues qui n'a besoin d'aucune aide financière ni pour le. Alors c'est un signe quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas payé, mais bon, on fait tout bénévolement. Mais enfin, quand même, les autres aussi, souvent, ils ont besoin de coups de main. Hein. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui... Je crois que c'est... Et on a un côté complet. Je veux dire, il y a à la fois des poèmes, il y a à la fois des chroniques. La partie critique, je crois, est très importante. Les dossiers sont importants. Hein. Je crois que oui, il y a ça. Quand les autres revues, souvent, je me dis, ben, ils sont incomplets. Il y a peu ou il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dire sur la poésie du jour. Hein. À la fois le regard vers les jeunes voix, à la fois le côté critique, le côté dossier sur ce qui fait l'actualité. Enfin, bon, voilà. Hein. Je crois qu'il y a ce côté complet hein, qui intéresse les gens.
Oui, Pierre, c'est réellement...
Et puis, Jacques, je pense, dirait la régularité, ça tombe vraiment chaque trimestre, régulièrement, et ça, c'est très important pour un lecteur, hein, ouais. Savoir que sa revue va arriver.
Se pose la question de la diffusion, du rayonnement de la revue.
Oui.
Ça a été crescendo pratiquement depuis la création.
Oui, ça a été crescendo. Les 99 premiers numéros qui étaient, sous couverture Kraft, etc. Et pour la centième, on a été pris en charge par le Dé Bleu, justement, ouais. Par Louis Dubot. Et il nous diffusait sur les marchés, il était très présent sur les marchés. Il proposait à la fois ses livres et les nôtres. Hein. Ouais. Il y avait un abonnement commun avec ses livres et des charges. Et puis quand Louis s'est arrêté,
Eh bien, c'est justement le site qui a pris la suite, merci, avec beaucoup d'interrogations, parce qu'on se disait, si les gens lisent de la poésie sur Internet, ils vont plus nous lire. Or, non, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Plus on développe le site, plus les gens nous suivent aussi sur la revue papier.
Donc, c'est pas demain que Descharges va plier boutique, hein.
Ah ben écoute, quand nous on sera peut-être épuisés nous-mêmes, hein, ou bon, tu sais, il faut jurer de rien, hein. Bon, on commence à vieillir l'un et l'autre, enfin surtout moi d'ailleurs, je suis en tête, donc oui, ben pour l'instant tout va bien, hein, mais bon, voilà, oui, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête pour l'instant, que ce soit financière ou par ce qu'on s'est disputé ou je ne sais quoi, hein.
Claude, un grand merci. On va écouter un poil de musique et puis on va lire tes poèmes, parce que vous êtes tous ceux qui travaillent pour Descharges sont avant toute chose des poètes, hein.
Oui, c'est un peu aussi la raison pour laquelle on a choisi de s'agrandir aux autres, hein. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, bon, c'est quelque chose que d'autres que moi le disent, mais je le dis aussi que la poésie est une aventure collective, ouais, contrairement à ce qu'on croit.
Et quoi de plus beau qu'une aventure collective, si ce n'est peut-être un poème de Claude Verset, ouvrons, si ça se trouve, publié aux éditions Corpus, collection Le Poémier. Voici quelques poèmes extraits de ce chapitre, Galop pour l'homme qui n'avait pas de cheval. La connaissez-vous, l'histoire de l'homme qui n'avait pas de cheval? Ah, brocoli, tête de chou, quel dommage! Volontiers, je leur ai raconté l'histoire de cet homme. Furoncloffès, ah, sparadrap, mais il était tout à fait sans histoire. Pas plus d'histoire que de cheval pour l'homme qui n'avait pas de cheval, décidément. Et le cheval, dites, de l'homme qui n'avait pas de cheval. N'en avez-vous rien, vraiment rien à dire? Cette monture, assurément, fromage et dessert, à nul autre n'aurait ressemblé. Qu'il eût été un fier coursier. Ah, alors ça, oui. Dommage pour cet homme, pour le récit, mille regrets. Balle de foin, salsifie, car s'il en eût eu, pas moins de quatre, cet homme de cheval, il en eût possédé, j'en suis, convaincu, ou quatre, très exactement. Alors, ça aurait été une autre histoire pour sûr, celle de l'homme qui n'avait pas de chevaux, n'en doutons pas. Non qu'il fût pauvre, ne cherchez point l'âtre à la cause, non plus que le cheval en soi le dégoûta, pauvre bête, il aurait dit, lui donnant la collade et lancé une yale par-dessus les œillères, en découvrant ses dents d'un bon sourire de cheval. L'homme, le monde est compliqué, même riche deux fois ou même dix, pas davantage il n'aurait eu d'équidés sur les talons. Il faut s'y faire, et faire à cheval, c'est comme ça. Absolument délicieux, ce texte de Claude Verset, extrait de « Si ça se trouve », publié aux éditions Corpus. Eh bien, c'est au tour de notre ami Georges Catalot de s'exprimer sur son engagement au sein de Descharges depuis déjà de nombreuses années. Georges, je voulais te poser une première question. Tout d'abord, peut-être, quel regard tu portes sur l'histoire de cette revue Descharges, et puis après, quel rôle tu y joues, bien sûr.
Oui. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bon, Descharges, c'est une longue et belle histoire, hein. Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur m'a permis de retrouver une série de bonnes ondes, hein, dans les années 80, d'avancer, de résister sur, allez, on va dire, cette route inconnue, tiens, exaltante qu'est la poésie contemporaine, voilà. Et c'est disons que c'est surtout une relation de l'ordre de la fraternité poétique, voilà. Ben, ça avait commencé surtout, tu sais, dans l'effervescence des années 80 et la prolifération des lieux de création. Et nous, en région toulousaine, nous animions la revue Texture avec Michel Baglin et quelques autres. Et puis, il y avait Arpo, l'association tarnaise, qui invite chaque année des poètes de renom et des revuistes qui devaient effectuer un compte rendu des journées de Tarn en poésie. Et alors, en 95, le staff Descharges assurant avec brio cette tâche, hein, voilà. Et donc on s'est rencontré avec Jacques Morin, Claude Verset, présent Albi. Voilà, et cette amitié ne s'est pas interrompue depuis. Voilà. Voilà un peu l'histoire, l'origine de cette relation. Et bon, bah après, personnellement, c'est en 87 que Descharges a accueilli bon, quelques-uns de mes poèmes, déjà dans le numéro 37, sachant que le dernier paru est 191, il y a eu du chemin parcouru depuis. Voilà, alors après, on a eu beaucoup d'échanges épistolaires amicaux avec Jacques Maud, bien sûr, et donc j'ai pu présenter des dossiers qu'il m'avait demandé ou qui me tenaient à cœur hein, sur des poètes comme Georges Godot, Henri Hurtubise, Casimir Pratt, Robert Momeux, Michel Baglin aussi, et le couple aussi, Romain Fustier, Amandine Barambert. On avait fait ça en commun avec Christian Degout. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Et alors ensuite, bon, il y a eu des dossiers, dont des poèmes isolés, mais c'est surtout en tant que chroniqueur régulier, donc j'ai occupé un certain espace dans Descharges depuis de longues années, voilà, depuis les années 71-90. On avait des chroniques, alors, il y avait des séries de chroniques qui s'appelaient Écho du ghetto. Ouais. Voilà, c'était des humeurs de toutes sortes concernant le petit monde de la poésie contemporaine. Voilà, et puis alors à partir de juin 2001, à la demande un peu de Jacques Maud, on voyait par-ci par-là beaucoup d'enseignes méritantes qui publiaient difficilement de la poésie de qualité. Et bon, j'ai intitulé ça aussi « Phare dans la nuit ». Et quatre fois par an, donc, je fréquentais des enseignes éditoriales animées le plus souvent par de généreux utopistes. Voilà. Et là, on en est à plus de 80 enseignes. Certaines ont disparu, d'autres voient le jour. Et tous les ans, bon, on se dit on n'arrête pas. Et puis, poussé par les amis de Descharges, je poursuis cette exploration éditoriale. Voilà.
Alors, si tu devais assigner un ou deux rôles prioritaires aux revues de poésie, oui. Quelle serait-elle ?
Ah ben, c'est surtout ce... Enfin, j'ai vécu depuis bien longtemps, il y a prescription, l'aventure de la Tour de Feu autour oui. de Pierre Bouju, et ça a été déterminant, quoi. J'ai tout de suite flashé, été irradié par cette volonté de fédérer autour d'un personnage, d'une ligne éditoriale qui est pas forcément tracée, puisqu'à la Tour de Feu, il y avait des gens de tous horizons, de toutes croyances, et c'était une espèce de ruche, de vivier, que j'ai retrouvé par la suite dans des revues comme Rétroviseur autour des Nordistes, Pierre Vasse, Jean-Pierre Nicole, Jean-Claude Dubois, etc., qui étaient des Hervé Le Sage, bien sûr, toute une équipe. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe-là, et puis la générosité qu'il y a derrière tout ça, l'ouverture, et puis c'est un tremplin vers... Et puis, bon, il y a d'autres revues. Après, il y a des revues où il y a quand même quelqu'un qui est à la tête. Je pense à Friche, avec Jean-Pierre Thuillard, pas avec Beauchourier, comme en poésie, avec Jean-Pierre Le Sieur, bon, c'est quelque chose d'important. Hein. Ouais. J'en parlerai pour conclure cet entretien avec toi, mais voilà, je t'écoute.
Une revue, c'est principalement un vivier, un lieu de découverte.
Un lieu de découverte, oui, oui. Et puis alors, c'est impitoyable. C'est-à-dire, si par exemple, bon, je prends un exemple concret, une revue décide de faire, d'organiser des textes autour d'un thème donné, quel qu'il soit, hein. Elle fait appel à texte, il y a 20, 30, 40 personnes qui répondent, et une sélection qui est faite, et il y a une parution qui se produit. Et là, c'est assez impitoyable, parce que la cohabitation, le voisinage de ces écrits va forcément être dans un sens pour les uns et dans l'autre sens pour d'autres, après, quelles que soient les orientations politiques. Hein, c'est impalpable, impitoyable. Et puis après, surtout, pour des gens qui publient, des utopistes, comme je les appelle, avec leur maison d'édition, tout à fait fragile dans la durée, c'est quelque chose d'important, parce qu'ils peuvent faire appel à ces personnes dont ils ont lu les textes dans les revues pour organiser un recueil, une plaquette ou un livre. Et puis il y en a qui font leur chemin, quoi. On voit certains qui ensuite franchissent notre étape et sont publiés chez les rares éditeurs parisiens. On voit la Table Ronde, Flammarion, Gallimard aussi, pourquoi pas, voilà, qui est prendre la relève. Hein.
Georges Catalot, je te remercie beaucoup et je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Rentiel.
Je pourrais conclure, dire un mot encore. Oui, allez, bon, merci à Radio Grand Ciel de fêter Décharge, voilà. J'en profite pour remercier bien sûr toute l'équipe de Décharge et en particulier la vigilance formidable entraîneur qui est Jacques Morin. Hein. Il a su fédérer autour de lui des gens formidables, des chroniqueurs. Et ici, en terre rugbystique, le stade toulousain, n'est-ce pas ? On connaît l'importance d'un entraîneur de haut niveau, voilà, pour faire gagner une équipe. Et bon, Décharge est une équipe gagnante, on le voit, tous les trimestres.
Un grand merci à Georges Catalot, dont je ne résiste pas au plaisir de vous lire le poème suivant, extrait de son livre « Sous la ramée des mots », publié aux éditions Henri Collection La Main au Poète. Poème intitulé « Fil » et dédié à Monique et Yves Perrine. D'une page à l'autre, il n'y a qu'à suivre le fil pour que la poésie voyage et qu'enfin les portes demeurent entrouvertes, pour renouer avec la lenteur, pour échapper à la déferlante, pour filtrer le temps, le délivrer de ses scories, suivre le fil dans le silence bâtisseur des cathédrales de papier. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de Décharge, Jacques Morin, Claude Verset, Louis Dubot et Georges Catalot. Je souhaite un excellent 40e anniversaire à la revue Décharge et lui souhaite de filer au bon vent du matin, de l'éternel matin des poètes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rentiel, mais restez sur la route inconnue car au dernier tournant nous attend le poète Cédric Merlan, qui est le nouveau lecteur de l'émission La Route Inconnue. Il va nous donner à lire quelques extraits d'un livre qu'il a choisi, d'un livre de son choix. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours sur La Route Inconnue.
Aujourd'hui, à l'occasion du marché de la poésie, un hommage au poète Rio Di Maria avec quelques extraits de son recueil Énigme du Seuil, paru à l'Arbre à Parole. Comment dire l'explosion de prévision des oiseaux ? Rides inguérissables en l'instant d'illumination. Tout est là pour le grand sommeil de l'univers blanc. Nul n'est plus égaré dans la grande marche d'où la mer s'efface. La source de toute chose balaye marécage d'images bavardes, elle s'élance hors parfum pur de l'Antarctique du premier langage. Le murmure du néant assume la musique blanche qu'offrent les énigmes du seuil de la maison vide. Maison de lumière offre mots retrouvés dans le ventre du cri perdu, quand il fait toujours nuit, dans les bastions informes des corps à naître. Le seuil évoque toutes les impossibilités de l'horizon. Le seuil n'engage pas encore le premier passant. L'horizon invoque l'intransigeante énigme que nul ne pourra franchir tant que l'impossibilité d'être ailleurs subsistera. Comme un enfant découvrant ses yeux, je partage la page soleil avec les morsures de vipères que la nuit s'invente pour abréger ce que je ne suis pas encore. L'hirondelle agrandissait le champ des rêves désunis. Arbres gris brisés au cœur du printemps ne peuvent plus s'échapper de la table conquise à la rase campagne tout en brisure. Elle est arrivée à destination improbable. Derrière la fenêtre des larmes incertaines, elle s'invente les fatales aventures à ressusciter, l'enfance guillotinée au premier balbutiement. L'oreille enneigée peut encore endormir, soleil de songe transpercé. Ici, c'est partout. Présent, atteint, hors épouvante de pieds nus, quel regard égratigne la tendresse aubépine. Ici gouverne le souffle de dire. Quand le cheval se charge des couleurs de l'horizon, la carriole décline les précautions du ciel serrées dans le bec d'une tornade d'hirondelles. La patience cultive la fragilité nouvelle, elle sépare l'aveuglement de la colère quand la sagesse retrousse les lèvres. Débordement. Ici, c'est partout. L'absence ne retrouve plus son ombre. La seconde nécessaire déborde l'œil quand la peur affamée regagne la main intense. À ma sœur Rosa Eleonora, parfois hors du temps. Tu as connu tous les sourires de l'enfance affamée de pain chaud et d'une poupée avide de caresses, même maladroites, quand il a fallu désarimer l'azur de nos souliers. Adolescence aux yeux faméliques, rue de brouillard et sentiers peuplés d'ombre, tout savoir de l'innocence des pas oubliés, tout mal connaître des portes entr'ouvertes qui avaient le mal de mer, qui abritaient toutes les calamités du père, quand les jours tissaient toutes les tentations de l'avenir. La vie embrouille les cartes. Le tas restant vaut toutes les interrogations à tirer, à trier, encore. L'amour pour les enfants vaut myriades de câlineries non reçues, et les secondes s'éternisent sur le sourire des petits riens qui arborent les fleurs de nostalgie. Ici et maintenant qui se désintègre, tu brilles de mille soleils hallucinés. Tu oublies le goût des oignons de ton enfance pour donner le souffle de l'univers aux yeux qui pétillent autour de ta main, qui bercent les planètes de ta passion. Le paysage traduit l'homme. Aux frontières déformées vibrent les mécanismes des illusions. Qui a franchi la peur soudaine de l'arbre? Les oiseaux contaminés connaissent les tourments des branches quand chaque feuille abrite une part de ciel, pendant que l'homme aiguise la hache. L'oiseau est à l'enfant qui n'a pas ouvert la bouche. Nous sommes la somme de toutes les différences et il marche sur les genoux pour mieux apprivoiser l'espace en pâture. Toute joie nourrit son printemps et ses ongles griffent les images tourbillons dans son miroir. L'étendue projette ses plaines au sang lassé et le voyage improvise nouvelle vague de soleil à déjouer le premier mot qu'il ne prononcera pas encore. Le langage de la prime enfance se désagrège avec les chants des oiseaux quand la dernière seconde se pare d'éternité. J'écoute les erreurs de l'heure et des yeux affamés, terrés. Dans l'arrière-pays d'un cahier blanc, jaillissent troupeaux de lettres du grand livre errant dans la mémoire de la seule patrie évidence où l'on ne massacre pas les rêves. Seconde et millénaire se parent d'une même lumière, mélange de soleils égorgés, d'arc-en-ciel arrachés aux yeux. Fleur d'un lointain juillet, que sépare le mambo du bourdon et le boléro ensorcelé de libellule avant tout commencement, silence de toute vie avant d'être vrai. Quel éclair dans le vol de papillon pour annihiler l'oubli? Tout est éclair dans la neige et sur la peau de ton visage paradis. Après toutes ces secondes éparses, dans la nudité des chemins éludés, fais en fait à l'intérieur cristallisé de moments purs, à pure perte. La porte s'ouvre et se referme. Elle apporte l'arme au souffle ferme du territoire. Terres en expansion pour l'apatride. Vivre la survie des traces inachevées derrière les barreaux fracassés. La vie s'accomplit en multiples métamorphoses. Présent atteint hors l'épouvante des pieds nus. Des regards égratignent la tendresse aubépine du souffle de dire. Le cheval se charge des couleurs de l'horizon. La calèche décline les précautions du ciel, serrée, dans le bec d'une hirondelle. La patience cultive le fossé qui sépare l'aveuglement de la colère et les débordements de lèvres. Sagesse assise dans le flottement d'espaces inviolés. L'absence ne retrouve pas ses orteils. La seconde nécessaire submerge la rétine et la peur regagne les tourelles de la main intense. Ici, le ciel nous habite. L'étendue progresse dans l'arbre et les racines dispersent l'alphabet des mystères, pâturent des herbes en apprentissage, à dissimuler les ferveurs de l'étrange. Respirer l'hésitation des papillons prolonge la sensation de l'œil vêtu d'ombres mobiles. Nous restons dans les visions de nouvelles épousailles quand l'immobilité du jour cède le témoin au braconnier de l'invisible, accroché à la suspension des mots. Nos lettres s'interpellent dans un langage venu de nos éternels ressourcements. Aube comme tout commencement. Intérioriser les souffles de la nuit. L'espace veille à organiser le rythme de vie. Depuis le couchant, la nuit efface les traces indispensables au passé. Aube comme tout commencement. Le jour s'ouvre aux nouvelles harmonies que la main apprivoise.
C'était des extraits d'Énigmes du seuil de Rio Di Maria, paru à l'Arbre à parole. Des extraits lus par notre ami Cédric Merlan. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À dans 15 jours sur la route inconnue. Thank you.